L'après-midi avec Guy Simard au 88.5 FM.
Oui, 13h17, c'est jour de budget aujourd'hui à Québec. On est ravis, on est content de savoir qu'on aura encore l'occasion collectivement de contribuer un peu plus au mieux-être de cette belle et magnifique province qu'on appelle le Québec. Le problème, c'est qu'on a l'impression, budget après budget, année après année, presque vie après vie, que quand on fournit cet argent supplémentaire, on est le seul à le faire. Le gouvernement, dans la présentation d'un budget antérieur, avait dit « Bon, on va faire les deux tiers du chemin, nous autres. Faites-vous, je me souviens pas des proportions exactes, mais ça ressemblait à ça. Nous, on va faire les deux tiers du chemin. On vous demande d'en faire une petite partie. » Avez-vous l'impression que ça se passe comme ça? Avez-vous l'impression que, au fur et à mesure que vous en donnez davantage, le gouvernement, lui, coupe et en réclame de moins en moins? Moi, je n'ai pas cette impression. Un économiste pourra nous expliquer de quoi il en retourne. Il s'appelle Youri Chassin. Il est économiste à l'Institut économique de Montréal. Bonjour, Monsieur Chassin.
Bonjour, M. Simard.
Est-ce que le gouvernement Charest fait sa part?
En fait, c'est une très bonne question à vous poser. Effectivement, il s'est engagé à faire 62 % de l'effort et donc de ne laisser que 38 % de l'effort aux contribuables. Le problème, c'est que son effort est basé sur le fait qu'on va réduire la croissance des dépenses du gouvernement. Donc, on diminue pas les dépenses. On réduit simplement leur croissance année après année. Et ce qu'on observe, c'est que dans les années passées, systématiquement, sauf une année, la croissance des dépenses a été plus élevée que prévu, finalement. Donc, si on nous dit qu'on va restreindre les dépenses, qu'on va ne les faire croître qu'à 2,9 ou 2,2 %, il va falloir vérifier dans le budget qui va être déposé là, sous peu, si c'est bien le cas, et fort probablement qu'on va avoir dépassé les dépenses. C'était en fait le cas là, qu'on soulignait et que le vérificateur général du Québec soulignait dans la mise à jour économique de décembre passé.
Donc, on nous promet de limiter les dépenses, budget après budget, ou presque, ou énoncé économique après énoncé économique, et dans les faits, on n'y parvient pas.
Exactement. C'est effectivement des dépenses qui ont l'air hors de contrôle. Le gouvernement, malgré ses efforts, ne réussit pas à garder ces dépenses-là sous contrôle. Et le problème, c'est qu'évidemment, quand on veut atteindre le déficit zéro, de deux choses l'une, soit on réussit à garder le contrôle des dépenses, soit on augmente les revenus, et ça, c'est de l'argent qu'on va chercher dans la poche des contribuables. Donc, je rappelle qu'il va y avoir une augmentation de la taxe sur l'essence d'un sou le litre. Il va y avoir, en fait, il a eu une augmentation de la TVQ. Il va y avoir un autre point de pourcentage de plus de la TVQ en janvier prochain. Il y a la contribution santé aussi. Donc, on va chercher davantage d'argent dans la poche du contribuable. Puis finalement, l'effort du contribuable est plus grand que prévu.
Et on apprenait ce matin que l'Union des municipalités aimerait, comme la communauté de Montréal, aimerait pouvoir taxer l'essence à hauteur de 5 cents pour les projets d'infrastructure, pour le transport en commun. Et c'est le même problème pour le gouvernement du Québec que pour les municipalités. Elles nous en réclament davantage, mais on a l'impression qu'elles se servent de ce surplus pour se payer à traite.
Essentiellement, les contribuables ont vraiment cette vision de vouloir revenir à un équilibre budgétaire. On a posé la question en fond dans un sondage. 51% des Québécois veulent revenir à un équilibre budgétaire. Et effectivement, 81% croient que cet effort-là doit se situer dans la colonne des dépenses et non pas dans la colonne des revenus. Fait qu'on a effectivement différents paliers de gouvernement qui ont un réflexe d'aller chercher davantage de revenus, alors que essentiellement l'opinion publique croit que c'est du côté des dépenses qu'il faut couper.
Comment vous réagissez quand vous entendez, comme ça a été le cas il y a quelques jours à peine, les syndicats demander de repousser l'atteinte de l'équilibre budgétaire, disant c'est pas ça qui doit être la priorité au Québec?
Ben, en fait, je vous répondrais que c'est un message particulier. La politique du acheter maintenant, payer plus tard, ça fait 30 ans qu'on l'a adoptée et ça nous a laissé une dette de 226 milliards de dollars. Je pense que c'est pas la bonne solution. Qui plus est, l'Alliance sociale réclame, dans le fond, un État très présent. Ce qu'il faut réaliser, c'est que plus on attend pour revenir à l'équilibre budgétaire, plus la dette augmente, plus le service de la dette augmente, donc l'argent qu'on paie année après année, et c'est de l'argent qui met de la pression, dans le fond, qu'on n'a pas pour d'autres missions de l'État. Fait que même si on veut un État avec des programmes sociaux très généreux, il faut revenir à l'équilibre budgétaire de toute façon.
Et pourquoi ne le fait-on pas?
En fait, pardon, le plan du gouvernement, c'est d'y revenir en 2013-2014. Possiblement qu'on va peut-être y arriver. Ceci étant dit, puis on revient à ce qu'on disait, c'est quelle est la proportion de l'effort qu'on va demander à qui? Et à l'évidence, il va falloir que le gouvernement fasse un effort supplémentaire pour réussir à contrôler ses dépenses pour de bon, finalement.
Combien on a payé pour en intérêt, par exemple, sur la dette du Québec en 2010-2011?
7 milliards de dollars, donc c'est 7 milliards, c'est considérable dans le budget du Québec. En fait, c'est le troisième poste de dépense après la santé et l'éducation. Là où on envoie le plus d'argent, c'est à payer les intérêts de notre dette.
C'est pas normal.
C'est très élevé, effectivement, et ça montre à quel point le Québec est endetté.
Par exemple, un gouvernement comme l'Ontario, les États-Unis, la France, pouvez-vous nous donner des comparatifs? Combien, eux, de leur budget consacrent-ils au service de la dette?
J'ai pas ces données-là sous la main.
À peu près, là.
Ce que je vous dirais, dans le fond, c'est que la comparaison qui a été faite par le ministère des Finances du Québec pour essayer de placer l'endettement du Québec dans le monde, dans les pays de l'OCDE, c'est que dans tous les pays développés, finalement, le Québec était l'État, le cinquième État le plus endetté, à hauteur de 94 ou 95 de son PIB. Donc, quand on prend toutes les dettes que tous les gouvernements doivent et qui sont assumés par les contribuables québécois, c'est très, très, très élevé. Et il y a un problème, particulièrement face, par exemple, aux défis démographiques, avec une population vieillissante. S'il y a de moins en moins de gens qui, par leur travail, par leurs impôts, contribuent à payer cette dette-là, le poids va se faire de plus en plus lourd sur les épaules de moins en moins de personnes.
Youri Chassin, dans les mesures qui sont anticipées dans le budget que présentera Bachand cet après-midi, est-ce qu'il y en a une dans le tas qui vous semble brillante, intelligente, à propos?
Je dirais, en fait, moitié-moitié, il y a peut-être les frais de scolarité qui ont été, dans le fond, mis en lumière par rapport à quelques articles dans les journaux et qui augmenteraient. L'idée, c'est que ce qu'on comprend, c'est que ça augmenterait de 500 $ par année pour les trois prochaines années. C'est un pas dans la bonne direction pour résoudre le sous-financement des universités. Le problème, enfin, à l'IEDM, nous, on est partisans de laisser davantage la possibilité aux universités de fixer elles-mêmes les frais de scolarité selon les disciplines, parce que d'augmenter les frais de scolarité pour tout le monde du même montant, ça fait que dans certains programmes, il y a des gens qui payent une grosse part de leur éducation.
Un étudiant en médecine ne devrait pas payer le même prix qu'un étudiant en histoire, par exemple.
Exactement, exactement. En sciences humaines, on paie environ 40 % du coût de sa formation, alors qu'en sciences vétérinaires, on ne paie que 6 %. Donc, tout le monde est égal, mais ce n'est pas équitable pour autant.
Merci, Youri Chassin.
Merci à vous.
Bon budget cet après-midi, si la chose est possible.
Ah oui, effectivement, on va espérer.
Économiste à l'Institut économique de Montréal, il est 13h25.